Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM. C'est reparti, comme tous les mercredis, à cette heure-ci. Le temps ne fait rien à l'affaire vous propose pendant une heure un petit tour autour de la chanson. Le temps ne fait rien à l'affaire, une émission préparée, accommodée, mitonnée, mijotée par Jean-François. Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM 88.4.
Dansent en rond, place de la contrescarpe, ils claquent les talons, ils ont les pieds gelés, les mains dans leurs poches trouées, place de la contrescarpe, ils dansent tous en rond, l'été, quatre arbres verts, quatre arbres noirs l'hiver, tout autour des bistrots, bière fraîche ou vin chaud, le vent balaye le givre. Sur le toit les maisons et tourne le noir borgne, l'arabe et le breton, et tourne le noir borgne, l'arabe et le breton, place de la contrescarpe, ils dansent tous en rond, place de la contrescarpe, les clochards dansent en rond, place de la contrescarpe, ils claquent les talons. Ils ont les pieds gelés, les mains dans leurs poches trouées. Place de la contrescarpe, ils dansent tous en rond. La musique du vent, ce soir les fait danser. Et les derniers passants passent à pas presser. Puis le quart de la police, sans sirène ni klaxon, emballe sur leurs clochards. Clochards, clochetons, privilégiez les pauvres, passons la nuit au violon. Mais place de la contrescarpe, d'autres clochards dorment en rond. Mais place de la contrescarpe, d'autres clochards dorment en rond.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Marmite FM 88.4 pour une nouvelle livraison du Temps ne fait rien à l'affaire, l'émission de la chanson non crétinisante, puisqu'on vous le dit, c'est que c'est vrai, 134e du nom, au cours de laquelle nous allons abattre les murs du studio pour aller ensemble prendre un peu l'air. L'air de Paris tout d'abord, quel que soit le poids du nuage gris jaunâtre qui pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis de la pollution, et quelle que soit bien sûr la couleur de votre vignette personnelle puisque nous serons à pied. L'air des chansons ensuite, celles qui ont un temps que les moins de n'ont pas pu connaître, résonné entre la place de la Contrescarpe et la rue Mouffetard, dans ce quartier qui fut, s'il ne l'est encore, si populaire. Vieux, très vieux quartier que cette rue Mouffetard qui suivait déjà il y a bien longtemps le chemin de Lutèce à Rome. Au Moyen-Âge, Paris, qui n'a pas encore tout dévoré, est encore à quelques centaines de mètres, on est dans les faubourgs. Le faubourg, le fort-bourg, c'est tout ce qui se trouve en dehors du bourg, c'est-à-dire au-delà de l'enceinte, plus commerciale et douanière que défensive, dans laquelle s'enferme frileusement la capitale des rois de France. Quand il n'y a plus assez d'espace à l'intérieur de l'enceinte, on construit à l'extérieur, on n'est plus dans la ville, on est dans le faubourg. Et puis un jour on abat le rempart, on en construit un autre un peu plus loin, et on englobe le faubourg dans la ville. En haut de ce qui est devenu la rue Mouffetard, il y avait une des portes de la ville, c'est la porte Bordel, E2LE. Les marchands qui veulent la passer et entrer dans Paris doivent s'acquitter de taxes, d'un octroi, et ça c'est pas bon pour les bénéfices. Alors si vous avez de la marchandise, vous avez tout intérêt à en écouler le plus possible avant de passer cette barrière. Donc l'activité commerciale va ainsi se développer très rapidement dans ce quartier, avant qu'il ne soit plus tard intégré dans Paris même. Le bourg Saint-Médard, comme on l'appelle, se couvrira alors de riches demeures dont on peut encore ici ou là deviner les traces, et puis dès le XVIIe siècle, le quartier prendra une couleur nettement plus populaire qu'il conservera jusqu'à la fin du siècle dernier. Après-guerre, dans les années 50 qui vont être le départ de notre balade d'aujourd'hui, le quartier Mouffetard, c'est ce qu'on appelle un îlot insalubre. Un bon nombre de bâtiments menacent de s'écrouler, et on envisage même sérieusement de raser tout, de faire du neuf. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont disparu depuis cette époque, mais quand même la rue Mouffetard, avec quelques cicatrices, a pu se sauver de la pelleteuse des démolisseurs. Et c'est donc à cette même époque, à partir du milieu des années 50 et jusqu'au début des années 70, que ce quartier a respiré au rythme de la chanson. Depuis la fin de la guerre surtout, Paris a vu naître un très grand nombre de cabarets qui seront pour deux ou trois décennies le creuset de la chanson. Rive gauche, rive droite, au Bœuf sur le Toit ou à la Colombe, au Bateau Ivre ou à la Contrescarpe, à l'Écluse ou à la Polka des Mandibules, chez Georges, chez Agnès Capri ou chez ma cousine, on va s'entasser jusqu'à la fin des années 60 et un peu après pour quelques-uns. Alors pas question évidemment d'évoquer même rapidement tout cela dans cette émission. Pour ça, je vous renvoie au très beau et très documenté film réalisé en 2012 par Yves Jelan ou à la Somme publiée en 2006 aux éditions de l'Archipel par Gilles Schlesser. Non, ce que je vous propose, dans le temps de faire rien à l'affaire, c'est un gros plan, un petit coup de loupe sur un de ces cabarets, et un peu plus. Je vous emmène au Cheval d'Or, rue Descartes, en haut de la rue Mouffetard. Un cabaret créé par deux légendes de ces années-là, Jean-Pierre Suc, d'abord musicien de jazz, puis auteur-compositeur et interprète avec son ami Henri Serre, et puis Léon Tcherniak, fourreur juif ashkénaze qui eut un jour envie de changer d'enseigne et de vie. À eux deux, ils ouvrirent ce Cheval d'Or qui allait être dès 1955 le premier cabaret de chansons du quartier, et puis entraîner à sa suite, du haut de la montagne Sainte-Geneviève jusqu'à Saint-Médard, la création de plus d'une quinzaine d'autres lieux. Et pour nous accompagner dans cette promenade, à partir et autour du Cheval d'Or, nous aurons un guide exceptionnel, en la personne de Gilles Tcherniak, le fils de Léon, le petit bonhomme qui assistait à tout ça, puisque ça se passait quand même à peu près dans sa chambre, et dans sa rue, où ce petit parigot jouait aux billes avec son pote Gérard, en attendant bien des années plus tard de remettre un pied, et même les deux, dans la chanson, en reprenant le forum Léo Ferré d'Ivry-sur-Seine, où il a souvent accueilli notre micro, et qu'il vient de transmettre à son tour à une nouvelle équipe. C'était l'hiver dernier, il faisait un froid de loup sur Paris, et j'avais rendez-vous avec Gilles. Vous me suivez ? Alors je suis allé boire un coup à la Contrescarpe, mais la serveuse ne sait pas qu'il y avait un cabaret ici, dans les années 50-60. C'est peut-être trompé. Alors me voilà rue Descartes, j'arrive devant le 33... Pas de cheval, pas d'or, pas de cabaret. Descartes Sushi. Est-ce que quelques années auraient passé ? Bon, j'entre. Bonjour. Je me suis pas trompé, c'est bien là.
Ça va, j'en
reçois. Il n'y a plus de cheval. Alors, je me demandais si je m'étais pas trompé.
Donc voilà, donc bienvenue dans le cabaret. On regardera l'aventure après et je te parlerai du quartier. Oui.
Quand à la messe j'allais, alors fallait voir les punaises, me lorgner sans pudeur du coin de leur regard qui biaise. À travers leurs mains jointes, elles me lancent des pointes. Voyez un peu l'allure qu'elle a, Ave, Ave, Maristella. Car moi j'y allais pour de bon, balancer mes jupons. Car moi j'y allais pour de bon, balancer mes jupons. En écoutant le sermon,
Moi je suis né en 1944. Mes parents s'étaient réfugiés à Saint-Étienne pendant la guerre, après différentes cavales pour échapper à la déportation. Et ils étaient restés à Saint-Étienne de 1944 à 1949. Mon père ne voulait avait, c'est pas qu'il voulait pas, mais il voulait pas retrouver les vieux démons, c'est-à-dire une partie de la famille qui, une grande partie de la famille qui était morte en déportation. Et il hésitait beaucoup à revenir à Paris. C'est-à-dire que la déportation a tué les gens, mais elle a tué aussi les vivants. Quoi. Et puis finalement, en 1949, ils sont revenus à Paris. Mon père était fourreur. Ma mère était dans la schmattes, comme on dit, la confection. Mon père a installé un petit local de fourrure rue du Banquier, dans le 13e. Et ma mère lui a acheté une boutique de confection ici.
Bonnetterie.
Et ils l'ont appelé Yvonne, c'était le prénom de ma mère. Et Gilles, c'est moi. Très rapidement, mes parents, ça les emmerdait, ce métier-là. Et puis ils ont fait une rencontre, d'abord avec un couple, Coupin-Bar. C'est comme ça que les choses ont évolué et qu'ils ont décidé
de lâcher la bonnetterie,
de lâcher la fourrure. et de transformer tout ça en cabaret.
Voilà. Et ça, c'était en
54-55, voilà.
En écoutant le sermon, je faisais mon petit inventaire. Le curé, pour méchant, tout en prêchant, me regardait faire. Disant, dans une décade, quand elle sera en rade, elle viendra me raconter tout ça, confiteur, etc. Car moi, j'y allais qu'évidemment me choisir un amant. Car moi, j'y allais qu'évidemment me choisir un amant.
Alors, la transformation a été terrible. Au début, avec toutes sortes de jeunes artistes, ils ont abattu cette cloison-là de façon à ce qu'il y ait une salle de spectacle. Tu vois ? Alors, la salle de spectacle, elle allait de là à là. Ce qui fait déjà que moi, j'avais plus de chambre. Et donc, je dormais avec mes parents. La scène était là en demi-lune. Hein, et les coulisses étaient dans la cave.
Il y avait un escalier alors, qui
voilà, voilà, il est là-bas, tu vois, il y a la trappe là. Et donc les artistes rentraient par là-bas, ils avaient installé un petit comptoir où mon père se tenait, on voit sur certaines photos mes parents, et avec une espèce de truc avec des persiennes qu'ils avaient récupérées dans les chantiers de démolition pour faire une espèce de sas qui amenait les artistes sur scène. D'accord. Et donc les artistes descendaient à la cave pour changer, et puis après ils venaient sur scène.
Donc on surgissait du sous-sol.
Voilà, du sous-sol, voilà.
Bénédicte Camus, ils étaient tous sur la sellette pour désigner l'élu, moi j'avais plus. Calver la tête, aux aguets les punaises, chuchotait bien à l'aise, et faisait des paris tout haut, et comme spirit dit tout haut, car j'avais bien l'air d'y aller que pour les faire parler, car j'avais bien l'air d'y aller que pour les faire parler.
Et donc ça a été plus loin. La scène là c'était un peu rikiki, et donc ils se sont dit on va tout abattre et on va faire la scène plus grande, tu vois, avec derrière un espace qui permet que les artistes continuaient à descendre par l'escalier, ils allaient dans la cave, ils se changeaient dans les coulisses de la cave, et après, par les couloirs de l'immeuble, avec les hurlements des copropriétaires, ils surgissaient dans la cour et ils rentraient par une porte qui est derrière la scène. Voilà.
D'accord. Voilà.
Et donc ça, c'était la scène du Cheval d'Or, ce qui fait qu'il n'y avait plus...
Il n'y avait plus d'appartement.
Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, c'était fini. Hein? Alors donc, au début, on n'avait pas d'argent, quoi. Alors moi, il m'avait installé un petit lit de camp dans un coin... Derrière la scène, c'est pour ça que mon bouquin s'appelle Derrière la scène. Et puis mes parents sortaient le matelas tous les soirs après le spectacle devant la scène. Voilà.
Pour la nuit, quoi.
Pour la nuit. Et après ils remballaient le machin, quoi. Voilà. Et ça a duré un petit moment, pas, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Ça a duré quand même plusieurs mois.
Donc là, tu avais quel âge ?
Alors là, je vais avoir, 14 ans.
Et alors, il n'y avait pas du travail scolaire à faire le soir ?
Le travail scolaire, bah, c'était en face, au lycée Henri IV, très prestigieux. Hein. Je fais toujours partie de l'amicale des anciens Henri IV. Je rencontre du beau monde, des ex-ministres, des ambassadeurs, des artistes. Claude Lemel a été Henri IV, Patrick Bruel, Agnès Jaoui, et puis Gilles Gerniac, un cancre notoire. Comment tu veux faire un truc ? Mais c'est très bien, je veux dire. Moi, je n'ai rien contre les études, mais bon... Quand tu vois ça, t'as pas envie de faire tes devoirs. C'est même pas des questions matérielles, c'est toujours t'isoler.
Il n'y a pas d'études, mais il y a de la formation.
Dernier évangile, fallait voir s'ils quittaient leur chaise. Derrière tout un peloton de marbetons et de punaises. Je sortais la dernière, juste après la chaisière. Un beau gars m'attendait en face, ah là là, Deo gratias. Et il m'entraînait pour de bon, balançant mes jupons. Et il m'entraînait pour de bon, balançant mes jupons.
Donc voilà un peu le début de tout ça. Pour finir là-dessus, mon père avait comme objectif de faire une véritable salle de spectacle, que j'ai un petit peu, moi. En fond, je reproduis à peu près ce que j'ai vu, hein, de faire une vraie scène, avec des coulisses, avec des éclairages, avec du son, et avec un piano, puisqu'au Cheval d'Or, il y avait, comme à l'Écluse, il y avait un pianiste maison, hein, qui accueillait les clients en jouant du piano. C'était souvent un jazzman. Et qui accompagnait les artistes, tous, sauf ceux qui s'accompagnaient sans piano, et sauf surtout Bobby Lapointe, puisque Bobby, il avait dès le début un pianiste attitré à lui. Pourquoi ? Parce qu'il fallait le suivre, et puis il fallait le suivre sur ce qu'on dit maintenant l'after, qui était par moments le plus épuisant. Voilà, c'était Bobby Lapointe, quoi.
comment Bobby est arrivé là?
Bah Bobby, il est de Pézenas, hein, à côté de Montpellier.
C'est un gars du Sud aussi.
Ouais, donc c'est le même truc, quoi. On lui a dit, tu vois, tu vas à Paris, et les mecs ont monté une affaire. Donc, et il s'est pointé, il y avait mon père, il y avait Suc, c'est eux qui ont dû recevoir. Ils ont vu arriver Bobby, il s'est pointé. Bobby était plus vieux que les autres artistes. Et il se sapait comme un représentant de commerce, quoi. Un costard un peu étriqué avec un petit gilet. Donc il s'est pointé, il a dit voilà, moi je cherche une fille pour chanter mes chansons. Ah bon?
Si vous voulez vraiment que ce soit chanté par
une fille? Ah, il voulait pas chanter, Bobby. Ouais.
Ah non. Non, qu'il veuille pas chanter, je le comprends assez bien.
Il a raison.
Mais
bon. Mieux ses chansons. C'est les filles qui chantent mieux ses chansons. Comment ça s'est passé en détail? Bon, ils ont dû lui dire, bah écoutez, montez quand même sur scène pour nous dire vos textes. Et puis ils ont vu le personnage, quoi. Ils ont tout de suite vu que il y avait un truc. Ah oui, ils ont vu tout de suite qu'il y avait un truc, quoi. Toi, si t'as un peu de nez, tu peux pas passer à travers un truc comme ça, quoi, toi. Bah, mec énorme, quoi. Et donc brut de dégoffrage, hein. Et donc voilà, ils ont dû faire en sorte de pas lui trouver une interprète. Et puis voilà, ça a démarré, quoi. Et
dans les premiers temps du cheval.
Oui, dans les années. Ouais, 60, je sais pas quand est-ce que je date ça exactement, oui.
Peut-être pas tout à fait les premiers temps, hein. pas tout à fait au début.
Mais deuxième ou troisième année, voilà. C'était stupéfiant sur scène, hein. Parce que tu vois, le physique, il était balèze, Bobby. Ouais. Dans une petite salle comme ça, c'est... Ouais. Ah ouais, voilà.
Ça occupe.
Ah oui, et puis non, puis là, c'est inclassable, le truc, tu vois. T'assistes à un truc, tu sais pas bien ce qui t'arrive, quoi. ça te tombe sur la tête. Tu te dis, oh là...
Bobby Lapointe, on l'a vu surgir un soir sur la scène du Cheval d'Or. Vous savez, au Cheval d'Or, les artistes surgissaient comme d'une trappe. Les loges étaient au sous-sol. Alors ils montaient un escalier et ils apparaissaient directement sur la toute petite scène.
Jean-Claude Carrière.
Et j'étais avec Etex, je me rappelle, quand on a vu Bobby Lapointe surgir avec ses yeux brillants, sa barbe, et se mettre à chanter au pays des Gadaragons. Ça nous a fait un choc extraordinaire. On s'est dit... voilà une nature qu'on a très rarement vue au cabaret ou au music hall. Et ensuite, toutes ces chansons, on les connaissait toutes par cœur.
Il a du beau Léon, qui porte un bandoléon. Il a du beau Léon, oh bon Léon. D'abord, il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense. Et puis, ça n'a pas d'importance. Il a du bobo Léon, il va peut-être canner Léon. Il a du bobo Léon, oh pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part et il est mort.
Il y avait des gens après qui on ne voulait pas passer. Il y avait Bobby Lapointe et franchement j'aimais mieux passer avant lui parce qu'après lui il ne laissait que des combres. Enfin, s'il avait bien marché, c'était pas possible de passer après, parce que les gens étaient épuisés de rire. Enfin.
Ma que c'est la lumière tango, il est musicien you tango. Yo suis du pays del tango, io lo voudrais danser. Si, 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 io distingo una chiquita, mon beau regard loin l'invita. Ma qu'avec une grâce esquisse, elle me dit, yo les promis, aïe, 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 aïe. Et pour pas manquer la danse, yo m'incline vers sa sœur, belle comme une contrebasse, avec un sapo à fleurs. Ya la la de mi amor, ya la la tu corazón, ya la la de tu amor, ya la la mi corazón. Après le tango, vient une bamba, et yo
vieux ne peut plus décoller de ses bras avec tout le poids de son corps bien garni. Elle saute à pieds joints sur mes souliers vernis et yo n'ai jamais fini de danser dessous sa loi. Bientôt mes souliers vernis ne le sont pas plus que moi. Yo n'ai jamais su de sens, moi qui suis un Alzantin depuis que je suis en France. Bel amour, yo fait tintin. Si est-ce que yo lo digo, lo répétera usted, pero si no lo digo, no se le répétera. Y si no lo digo, yo ninguno podrá oír. Y si no lo puedo oír, no se le répétera. Oui, da, oui, da, da, da. Ma qu'est-ce bien lumière tango, les musiciens rient tango, et soudain je m'aperçois si que monte à moi un émoi, si, 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 un émoi qui grossi, grossi, ma cavalière aussi rosi, contre moi son beau corps tangro, tango rythme du tango, ma que la un beau collier, ma que voilà l'escalier, que ça nous monte au premier, les salons particuliers. Y'a la la de mi amor, y'a la la tu corazón, y'a la la de tu amor, y'a la la mi corazón. Et là, je lui fais une proposition, ma qu'elle dit vous êtes un grand polisson, et ça voulait dire que y'ait permission de lui procurer beaucoup de grands fissons. Y'a montré tout mon savoir, la bébête qui monte, elle mit le pâte paillard, elle perroquet qui sanglote, la brouette y'a japonaise, la marmite à grand blaqué, elle tourne de béarnaise, elle delvise, ça tourne qu'est. Si est-ce qu'il lo digo, lo répétera usted, pero si no lo digo, no se le répétera. Si no lo digo yo, ninguno podrá oír, si no lo puedo oír, no se le répétera. Oui, da, oui, da, 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 que se me souviendrait tout le temps de ce tango à mille temps. Si, 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 si.
Contrairement à ce qu'on dit, il a eu du succès assez rapidement, Bobby. Au cheval, ça marchait très bien. Gros succès. Il a fait d'autres cabarets. Et puis après, surtout, il a fait les premières parties de Brassens. Brassens, quand il restait à Bobino, il faisait 3 mois à Bobino. Hein.
Oui, il faisait 3 premières parties différentes.
Et les premières parties changeaient tous les mois. Donc, il y avait Riffard, Bobby. Et puis, il y a eu Marie-Thérèse Aurin, puis des fois d'autres plus surprenants. Bon. Et Bobby a fait les premières parties des tournées avec Brassens. Sauf que Brassens pestait. Parce que par moments, Bobby était en retard et il disait, si ça continue, c'est moi qui vais faire la première partie. Quoi. Parce que Bobby, c'était quand même très spécial.
Et Brassens, il a chanté au cheval.
Ah non, jamais. Jamais. Il est venu, mais il n'a jamais chanté.
Il est venu, il y a les photos, on le voit dans le public, oui. Mais il n'a jamais chanté.
Jamais chanté. Jamais chanté.
Alors la fameuse fois où on dit aux flics que Brassens va passer.
Il venait. Non, il venait.
Mais pas pour chanter.
Non, mais c'était l'émeute. Quand Brassens se baladait dans Paris, c'était l'émeute. Et donc voilà, Bobby a très rapidement, je trouve, marché, grâce à Brassens, les premières parties, et puis après le cinéma. Hein. Il a quand même tourné avec Sautet, avec...
Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs.
Ça, hein. Et puis bon, sa façon de vivre a fait qu'il n'a pas vécu longtemps, quoi. Voilà. C'est pas économisé, hein. Donc il est mort à 50 ans.
Et moi, assis sur le cœur de Paris, place du Parvis, place du Parvis. Et moi, assis sur le cœur de Paris, ventre content et l'œil ravi. Grand bonjour, Notre-Dame la Reine, la tête sur un coussin de ciel et les pieds trempés dans la Seine. Au soleil, et moi assis sur le cœur de Paris, place du Parvis, place du Parvis, et moi assis sur le cœur de Paris, ventre content et l'œil ravi. Les touristes curieux, badauds, l'œil mécanique sur leur nombril tire la vie. Des photos, souvenirs plus faciles, et moi assis sur le cœur de Paris, place du Parvis, place du Parvis, et moi assis sur le cœur de Paris, ventre content et l'œil ravi. Sur les berges de la Seine, les amours passeront les heures, les jours, les pas mal d'eau sous les ponts. Et moi, assis sur le cœur de Paris, place du Parvis, place du Parvis. Et moi, assis sur le cœur de Paris, votre content, je ris.
Donc le cheval d'or, moi j'ai cru naïvement quand j'étais jeune et que j'entendais parler du cheval d'or, et je crois d'ailleurs que c'est plus ou moins René Fallet qui raconte un truc faux dans une de ses émissions, que le cheval d'or était une boucherie hypophagique et qu'on avait conservé l'enseigne, mais pas du tout. Alors en fait, ça vient de la chanson, mais alors il a écrit la chanson...
Et ben, tout au début, hein, c'était la chanson d'entrée. Hein.
Le cabaret n'avait pas de nom ?
Non, il fallait trouver un nom, et celui qui a dit le cheval d'or. C'est la chanson emblématique du cabaret, le cheval d'or, sur une aventure, voilà, ça.
Chanson complètement surréaliste.
Oui, oui, complètement, oui. Ah, oui, oui. Cheval d'or qui voit sa belle jument grise, et puis après, la tête tombe là sur, voilà, c'est ça. C'est ça, le cheval d'or.
Un cheval d'or sur une devanture, dure d'une boucherie. Un cheval d'or montrait sa denture, dure en bâillant d'ennui. Une blanche jument à la fière allure, lure passait le lundi. Toujours si fringante, tirant sa voiture, dure devant la boucherie. Notre cheval d'or, cela je vous l'assure, sûr, car il me l'a dit, adorait la jument si blanche, si pure, pure avec un brin d'envie. Il aurait bien aimé monter la monture, dure, et son cœur d'or frémit. S'il entend le sabot de sa maîtresse future, ture qui de loin hennit. Mais par un mauvais jour, un jour de froid dur, sale le jour de pluie, il coupa devant lui en morceaux sa future. Dure, le boucher qui rit, malheureux cheval, collé par l'encolure, lure, rugit en furie. À mort, bourreau, boucher, et craque, il se démure, mure, et en tombant, l'oxy, cheval d'or, boucher, jument dans la sciure, yure, sur le port et qui lui. Quel drôle d'endroit pour une sépulture, dure, égale boucherie.
Donc voilà.
Et alors le jazz avait pas mal de place au début, je crois que les gens qui sont montés, les premiers, c'était des jazzmen.
Oui,
en fait.
Parce que Jean-Pierre Suc, qui a été le créateur avec mon père, c'était une espèce de filiation, puisqu'il y avait une différence de père et fils. Mon père avait 50 ans, il n'était pas tout jeune au début. Et Jean-Pierre avait 25 ans. Et il y avait un amour filial, quoi. Et Jean-Pierre, à la base, était... Il venait des Beaux-Arts de Montpellier, comme Henri Serre, comme Petit Bobo, Pierre Maglon, etc. Et en même temps, il était jazzman. Il jouait au Kentucky. Le Kentucky était un peu plus loin là-bas, sur l'école polytechnique. Kentucky était une des boîtes de jazz qui s'était montée à la Libération avec les Américains qui étaient restés en France, des musiciens américains. Le Kent, on appelait ça. Hein, et quand on a ouvert, d'ailleurs le Kent a fermé au moment où on ouvrait nous, et on a récupéré gratuitement les tables et les chaises du Kent. Et les tables et les chaises du Kent étaient lourdes, parce que par moments c'était chaud. Hein, c'était l'ambiance des boîtes de jazz américaines.
Oui, mieux que ce soit solide. Voilà.
Et donc ça tenait bien, et on a récupéré ça. Et donc il y a eu toujours des très bons pianistes maison, même des trucs absolument invraisemblables, des pointures de jazz qu'on jouait au cheval. Voilà.
Léon Tcherniak.
Au début, on avait une partie qu'on n'a pas pu développer par la suite, c'était le jazz, parce que toute cette équipe dessus, qui étaient des types qui avaient déjà tenu une boîte de jazz à Montpellier. Et ils avaient travaillé à Paris avec des types comme Luther, Nicolas, tout ça, ils étaient très forts en jazz. D'ailleurs, Suc avait été réputé comme le meilleur chanteur de blues français, quoi. Mais la préfecture a mis le haut-là immédiatement, parce que ça faisait du bruit, il y a eu des pétitions, on a supprimé cette partie de jazz. Et on était pris un peu à l'improviste, alors on est parti sur la partie variété, en laissant monter un peu tout le monde sur scène quoi, pour pouvoir sélectionner. C'est là que Bobo s'est révélé raconteur d'histoires, alors qu'il ne croyait jamais le faire. Quoi. Il racontait des histoires à ses copains, puis là on l'a fait monter sur scène pour les raconter.
J'étais allé pêcher pour la première fois, et j'avais ramené dans mes filets, devine quoi, une sirène, toute jeune, une vraie, en chair et en arête, comme on dit. Puis superbe, avec les grands yeux, les longs cheveux bleu marine. Alors j'avais pris dans les bras, et je l'avais ramené tout fier à mon père. Je dis, papa, regarde si elle est belle. Il me dit, oui, ça fera une bonne friture ce soir. C'est comme il est, hein, profiteur. Alors, je dis, non, écoute, si tu vas en tirer profit, c'est pas ça qu'il faut faire. On va lui faire un petit bassin derrière la maison. Et ceux qui voudront la voir, tac, au guichet. Alors aussitôt fait, il a fait un bassin. Un mosaïque bleu, avec des dessins au fond, il a mis de l'eau, la sirène, et les gens sont venus la voir. D'abord les voisins, les paysans, les gens jaloux. Oh, c'est une sirène d'eau douce, il y en a qui ont dit. D'autres ont voulu faire les malins, ils ont dit, ça lui fait une belle jambe d'être là, l'humour. Enfin, les plus perspicaces ont dit, elle est pas mal ta sirène, c'est vrai. Seulement, il lui manque que la parole. Et là, je dois dire, c'était vrai. Une sirène, elle était toute jeune, elle ne savait pas encore parler. Alors je lui ai appris la conversation, l'alphabet, et elle a fait des progrès rapides, hein, c'était son côté féminin.
L'artiste descendait pas. Ouais, donc l'escalier était pas énorme quand même. Hein.
Ah bah, il est raide.
Hein. Gilles Tcherniak.
Et en plus c'était des grands échalates, où Henri Serre, il faisait 1m90, Bobo aussi.
Ouais, ouais.
En plus à la cave, il y avait une ambiance, c'était des jeunes, tu vois.
Et alors, il n'y avait pas moyen de faire dans la cave? Il y a eu pas mal de cabarets qui étaient dans les caves.
Ah non, la cave est petite, la cave, elle fait... Mais puis, t'avais dans les coulisses, t'avais des habitués, t'avais Lautner qui venait, t'avais toute la bande, Fallet, enfin, une bande, c'était sérieux, quoi. Alors, il y avait une ambiance dans la cave.
Bon, on va sortir.
Au revoir.
On se couvre. Au revoir, monsieur.
Voici une Java. Typique, certes, mais profondément humaine. Je vais souvent au bal musette, mais je reste à la buvette, où ce que j'écluse un calvaire, en écoutant la java. Je vois se trémousser les couples, que ça m'en coupe le souffle, et je me dis en m'attristant, je voudrais bien en faire autant. Car je ne sais pas danser la java, celle qui trotte, qui vire et qui va. Que ce soit la brune, que ce soit la bleue, je la danse d'une manière lamentable. Bleu, c'est pas pour des clopinettes que les julots et les nénettes jouent de la hanche et du tibia aux accents de la java. Attablé devant mon verre, je vois leurs gestes pervers, et je pense avec émoi qu'ils iront s'aimer sans moi. Car je ne sais pas danser la java, celle qui trotte, qui vire et qui va. Que ce soit la brune, que ce soit la bleue, je la danse d'une manière lamentable. Au guinche de la roquette, je peux voir de ma banquette bondir la grande Lucia dans l'enfer de la java. On l'appelle la couleuvre pour ses pompes et ses œuvres. Mais question de l'inviter, moi j'ai toujours hésité. Car je ne sais pas danser la java, celle qui trotte, qui vire et qui va. Que ce soit la brune, que ce soit la bleue, je la danse d'une manière lamentable. La Marie des épinettes se mélange les gambettes avec Bébert le puma, dit le roi de la java. Bébert n'est pas mon chaud pour les rendre folles d'amour et gagner tous les samedis, oui, son voyage en paradis. Car lui, il sait très bien danser la java. C'est le qui trotte, qui vire et qui va. Sacré Bébert, c'est un chanceux, il la danse d'une manière efficace, comme ça.
Donc voilà la plaque que j'ai fait poser il y a 4 ans,
Donc j'ai voulu que ça ne soit pas une plaque mortuaire.
Ah, il y a de la couleur.
Et donc c'est une création qui a été faite par une très belle céramiste qui s'appelle Sabine Lalande. Tu lui as raconté le cheval d'or, cette effervescence, elle l'a traduit comme ça, tu vois. J'ai trouvé ça très bien. J'ai souhaité que ça soit un témoignage, quoi, mais pas sur des gens. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de nom, ni suc, ni mon père. Des fois, il y a des groupes qui passent, ils l'ont inclus dans leur visite. Bon, des fois, il y a des copains qui me disent « Pourquoi tu n'organises pas une visite ?»
Ben, c'est aujourd'hui.
Oui, voilà. Ben, oui, on est
dans le temps ne fait rien à la fin.
Hein, voilà, ça...
Et en face, ça s'appelle le bateau ivre.
Alors, il y avait le bateau ivre qui s'est créé après. Ouais. Hein, où il y avait Jacques Cerisier, entre autres, qui chantait au bateau ivre. Yvan Dautin a chanté au bateau ivre.
C'était celui-là.
C'était là, oui, ça n'a pas bougé. Mais personne ne sait, bon, ça a pop.
Voici Yvan Dautin.
Je ne suis pas sorti de la cuisse à Jupiter, ni de la pipe à John D. Rockefeller. Je suis sorti les pieds devant derrière, faut dire que ma mère n'aimait pas les enfants. Je ne suis pas sorti d'un ventre légendaire, ni de la pipe en terre de John D. Rockefeller. Je suis sorti les pieds devant derrière, faut dire que mon père en avait fait autant. J'étais parti embrasser la carrière d'une autre fille, elle avait les yeux verts. L'été sorti de la cuisse à Jupiter et de la pipe en terre à John D. Rockefeller. L'été sorti les pieds devant derrière, faut dire sa mère, elle aimait les enfants. L'été sorti d'un ventre légendaire et de la pipe en terre d'un illustre chouan. L'été sorti et les pieds devant derrière, dire son père ne l'aimait pas tellement. Alors elle a mis les boucous tabous. J'ai deux demi-sœurs dont je suis jaloux. Elles sont sorties de la cuisse à Jupiter et de la pipe en terre à John D. Rockefeller. Elles sont sorties les pieds devant derrière, faut dire que leur mère leur faisait les yeux doux. Elles sont sorties de ce ventre adultère avec des tétineuses en caoutchouc. Elles sont sorties les pieds devant derrière, faut dire que mon père était devenu grand. Comme dit ma mère, je suis devenu grand, je suis dans la mer et je nage dedans.
Et puis là voilà, alors là, ça c'est le là ici c'est le démarrage. Alors, c'est le démarrage.
Donc, on n'est pas encore rue Mouffetard, hein, c'est rue Descartes.
C'est rue Descartes. Et tu remarqueras, la rue Mouffetard, c'est un quartier pauvre, très très pauvre. La rue Descartes, c'était petit bourgeois, tu vois, l'immeuble, pierre de taille, des cons. Des cons qui continuent, d'ailleurs, leurs enfants continuent sur la trace. Ils emmerdent régulièrement mes restaurateurs, tu as vu qu'ils c'est nickel. Mais voilà, ils n'ont pas des armées. Hein, et donc, avant que mon père ouvre le cabaret, ils ont comment fait ? Ah oui, parce que les vitres de l'aventure de la bonnetterie étaient brouillées avec du blanc d'Espagne, tu sais, l'espèce de craie, là. Et ils répandaient la rumeur. Ce couple Tchagnac, ils sont drôles. Un cabaret, tu vois, ça. Tu vois, tout de suite.
Un peu léger. Quoi.
Bah, pourquoi pas, d'ailleurs. Hein. Donc, ils ont commencé les pétitions. Et ils n'ont jamais cessé. Mon père n'a jamais eu, en 15 ans, une véritable autorisation. Sauf que, bon, comme l'immeuble, le truc était très bien tenu. Jamais eu d'embrouille, puis ça avait une certaine notoriété. Le commissaire du quartier, du 5e arrondissement, je sais pas, il avait mon père à la bonne. Alors, quand il y avait une pétition, il faisait son boulot. Il convoquait mon père. Alors, mon père arrivait, il avait une capacité de lasser, tu vois. C'est-à-dire qu'il s'assoyait devant, il croisait les jambes, et il était... Bon, il me disait toujours, de toute façon, moi, hein, je suis un survivant, donc ça va pas me faire grand-chose. Hein. J'ai toujours essayé. Alors, voilà. Et puis, il s'est installé un climat de confiance. Alors, une fois, ça a un peu chauffé, parce que Brassens est venu. Et quand Brassens venait, c'était l'émeute dans Paris. Et, ouais, c'était énorme, Brassens. Je sais pas comment ça s'était su, mais le commissaire avait convoqué mon père le matin pour lui dire, ah, monsieur, c'est pas possible, il y a des risques de troubles à l'ordre public. Moi, je peux pas vous laisser faire. Monsieur Brassens vient, tout ça. Et mon père lui a dit, écoutez, monsieur, si vous voulez fermer l'établissement, vous venez le fermer. Mais moi, je ne ferai rien pour qu'il soit fermé. Donc, et donc, il n'a pas fermé.
Ça restait ouvert. Voilà.
Et puis, après, ça a duré, les pétitions. Et puis, à un moment, mon père, il dit, mais qui c'est qui mène la danse? Alors, ce que je raconte est vrai. Hein. Qui c'est qui mène la danse? Le commissaire, il dit, je ne peux pas vous le dire. Alors, mais dites-le-moi, on comprendra mieux. On ne se doutait pas de ça. Il lui dit, c'est monsieur, je ne dis pas le nom, parce que son fils est encore là. Alors, mon père m'a dit, mais vous savez qui c'est, ce monsieur-là? Le commissaire dit, non, je ne sais pas, moi. Ben, il dit, ce monsieur-là, il habite pas au-dessus du truc, il habite sur cours, il habite au sixième et il est sourd. Et à cette époque-là, les appareillages n'étaient pas bons. Donc, le commissaire s'est marré. Il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Voilà. Et on avait en plus un témoin qui, lui, au-dessus, était très gêné. Quoi. Il assistait au spectacle tous les soirs. Parce qu'il n'y avait pas d'insonorisation, il n'y avait que dalle. Hein. C'était un flic. Et il aimait mes parents. Donc il a toujours témoigné pour nous. Donc voilà. Bon, ouais.
Donc ça a vécu.
Ça a vécu.
Il s'appelait... Je sais pas, peut-être il ne s'appelait pas. C'était un gosse qui était laid, quelque chose d'odieux. Qu'à le voir, ça faisait mal aux yeux. C'était atroce. Des plaies partout, jamais guéries, rongées par les intempéries, plus une bosse. Au Seigneur, je dis quelques mots, et j'offris au petit marmot, au pauvre petit gosse, une boîte en fer blanc pour faire bling blang le long de la ruelle, une boîte cabossée pour faire danser avec une ficelle. Il habitait... Je ne sais pas, peut-être qu'il n'habitait pas. C'était un gosse qui devait pas manger souvent, car il tombait au moindre vent. C'était atroce. Ses habits avaient tant de trous qu'on croyait qu'il faisait la roue avec sa bosse. Mais quand il jouait, c'est rigolo, on aurait dit un angelot, le pauvre petit gosse. Sa boîte en fer blanc faisait bling blang le long de la ruelle. Sa boîte cabossée, mais il la faisait danser avec la ficelle. Il s'amusait. Je ne sais pas, peut-être il ne s'amusait pas. C'était un gosse. Quand sa boîte fila dans l'égout, il a grimacé de dégoût. Ce fut atroce. Comme il a grippé la ficelle, il fut entraîné avec elle jusqu'à la bosse. Du bout du pied, je l'ai introduit sur Il est au ciel aujourd'hui. Le pauvre petit gosse, sa boîte en fer blanc fait corps bling blang en dessous de la ruelle. Sa boîte cabossée doit corps danser avec la ficelle.
Alors là, c'était un... Mes parents étaient encore dans la bonneterie, c'était avant l'ouverture du cheval. Il y avait un couple incroyable, qui s'appelait Geneviève et Gilbert Imbard, qui étaient des communistes, très fortement, et qui tenaient plus bas, rue des Carmes, la librairie France-Urss. C'était cette grande association d'amitié avec le peuple soviétique. Et donc voilà, et ils s'installent là, et ils montent une librairie. Ça s'appelait Plein Vent. Alors c'était un couple un peu comme mes parents, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils se sont très bien entendus, quoi. Très original, très volontaire, tu vois, sans un rond évidemment, hein, mais qui se lançaient dans des trucs, quoi. Et à un moment, ils se sont dit, on va bouger un peu la librairie, ils ont un très beau caveau là en dessous, on va monter une salle de spectacle.
C'est la première du quartier.
C'est la première du quartier. On parle pas assez de Gilbert et Geneviève. On parle pas assez parce que c'est eux qui ont fait la première chose. Alors donc, ils ont monté dans ce caveau-là un lieu dédié à la guitare. Et très rapidement, c'est devenu un lieu référence en France de la guitare, l'Académie de guitare de Paris. Il y avait donc en bas des concerts avec des pointures, il y avait 25 places, des concerts avec Alexandre Lagoya et des Presti, enfin des trucs incroyables. En haut, il y avait une librairie dédiée à la guitare avec une revue, guitare et musique, et puis des cours. Des cours de guitare avec, pareil, des très bons professeurs.
Donc quelque chose de vivant.
Ah oui, c'était très vivant. Alors, eux aussi, l'appartement était au-dessus, tu vois, les vitres sont brouillées. Bon, mon pote d'enfance, qui avait 8 jours de différence avec moi, habitait là, comme moi, quoi, dans des conditions très particulières. Hein, il faisait des cours là-haut, puis quand l'école a pris de l'expansion, ils en faisaient au cheval l'après-midi, ils en faisaient un peu partout, bon, voilà. Et puis, il faisait, le dimanche après-midi, une matinée chanson. Et mes parents, ils étaient attirés par tout ça, tu vois. Donc, ils venaient, puis ma mère aidait au service. Et puis, un jour, Gilbert, il dit à mon père, « Tiens, dis donc, il y a un garçon, il a envie de monter une boîte. » On disait comme ça, s'appelait. « Monter une boîte. »
C'est Jean-Pierre Suc.
C'est Jean-Pierre Suc, voilà. Et ils se sont rencontrés. Et voilà, et ça a démarré, quoi.
Ils se connaissaient pas du tout, en fait. C'était deux envies qui se sont retrouvées comme ça.
Je sais pas, ils étaient pas de la même génération. Lui, c'était un méridional. Mon père, c'était un Ashkenaz. On était sur deux planètes différentes, tu vois. Et là, ça s'est, tout de suite, ça marchait, quoi. Parce que, faut dire que Jean-Pierre Suc, c'était un mec très fort, quoi, tu vois. Brassens disait que c'était un des meilleurs, quoi. Tout le monde le dit, d'ailleurs. Bon, il s'est suicidé à 33 ans, c'est dramatique. Pour ceux qui le connaissaient bien, ça n'a étonné personne, puisqu'il avait toujours dit, il était très mystique. Il a toujours dit, je me suiciderai à l'âge du Christ. Il l'a fait. Et donc voilà.
Ah si un jour, j'en prends le temps, ma douce, je te strangule sur le champ, en doux. Tu sais mes blanches mains d'amant, si douce, j'enfonce dans ton larynx blanc mes pouces. Poupée poulette, gentiment, tu glousses, je te casse le fil des ans, tu tousses hors de ta bouche, que tes dents retroussent, coule un petit filet de sang qui mousse, ta longue langue bleue pend et m'éclabousse, accentuant le rictus charmant de ta frimousse. Sirène hors de l'océan, tu te trémousses, quatre petits spasmes affolants, une secousse, pour sûr que j'en ai pris le temps. Ma douce, et je t'ai séché sur le champ, en douce, ton œil noir jadis devient blanc de frousse. C'est pas marrant, moi j'ai les foies blancs de la rousse. Alors je fous mon camp pour la grande ours sur un satellite tout blanc de course. Mais toi, tu as pris la Panamérique en pamplemousse, et je revois ton spectre blanc à mes trousses. Ah, si un jour, j'en reprends le temps, ma douce, je te restrangule sur le champ en redouce, heure douce, heure douce.
Alors, ils ont commencé à chanter ensemble, c'est-à-dire les chansons étaient de Suc, et ils les ont répétées, et pendant très longtemps, il y a eu le fameux duo Suc et Serre.
Jean-Claude Carrière.
Et Serre était un merveilleux mime, c'est-à-dire ils chantaient tous les deux en même temps, et en même temps, Serre mimait les chansons, d'une façon quelquefois irrésistible, ou très drôle, ou très pathétique. Suc, lui, ne faisait rien que chanter, et jouer de la guitare. Et il avait toujours, vous savez, il avait des yeux très noirs, il était très beau, Suc, il avait un côté... un peu gitan comme ça, quelqu'un devenu un peu d'ailleurs. Ce qu'il aimait, c'était, je crois, se retrouver avec des amis, essayer des choses sur eux, recevoir d'eux ce qu'ils pouvaient leur donner, et puis partir avec eux, les entraîner dans ces farandoles nocturnes qui duraient des nuits entières et où, tout à coup, on s'apercevait qu'il avait mis en musique les poèmes érotiques d'Apollinaire et qu'il les chantait à tue-tête avec Serre la nuit, comme ça, devant les fenêtres bourgeoises qui se scandalisaient. Qui s'allumait quelquefois, qui jetait de l'eau.
Au bistrot du chêne vert, par beau soir d'été, par beau soir d'hiver, la belle Margot va toujours chantant ses peines et ses amours d'antan.
On jure, on jure, on jure, et quand on jure, on jure toujours éternellement. Ça dure, ce que ça dure, et quand ça dure pas très longtemps.
Yep.
Mon premier amant qui était de la Villette,
yep.
En tricot de peau et avec sa bicyclette,
yep.
M'amener au printemps guinché dans les guinguettes,
yep.
Mon premier amant qui était de la Villette. On jure, on jure, on jure, et quand on jure toujours éternellement. Ça dure, ce que ça dure, et quand ça dure pas très longtemps.
Yep.
Mon gentil marin, mon joli capitaine,
yep.
Des longs cours qui vont jusqu'au bout de la Seine,
yep.
M'amena en bateau durant plus d'une semaine,
yep.
Mon gentil marin, mon joli capitaine, on jure, on jure, et quand on jure toujours éternellement. Ça dure, ce que ça dure, et quand ça dure pas très longtemps.
Puis j'ai rencontré un trappeur du Grand Nord. Il était si grand et si beau et si fort. Je ne sais plus très bien qui de nous deux a eu tort. Mais mon beau trappeur s'est reparé dans le Grand Nord.
Oh, on jure, on jure, on jure, et quand on jure toujours éternellement. Ça dure, ce que ça dure, et quand ça dure pas très longtemps.
Au bistrot du Chêne Vert, par beau soir d'été, par beau soir d'hiver,
la belle Margot va toujours chantant.
Après la pluie vient le beau temps, le soleil ramène les amours d'antan, et on jure.
On va aller chez Jean-Pierre Suc.
Qui habitait donc...
Alors, au début, il habitait au 24 de la rue Mouffetard.
Oui, dans le fameux chanson. Hôtel. Catherine Sauvage a chanté ça.
Ah ouais, elle chante bien. Elle chante bien. Ouais. Mais parce qu'elle connaissait bien Jean-Pierre et Henri. Ils avaient fait partie tous les deux d'un spectacle, Le Brave de la Chouette, au Théâtre des Champs-Élysées.
Alors,
ouais, Jean-Pierre, après, il a habité là. Et c'est là, c'est pas là qu'il est mort, parce qu'il s'est suicidé dans un train.
Dans le train qui est ramené, ouais, à Montpellier.
C'est... Ouais, c'est plus qu'une symbole. Hein.
Ouais.
Curieux, tu vois. Jean-Pierre avait jamais manqué un spectacle. Bon, c'est pas qu'il s'entendait pas bien, mais ça n'allait plus avec mon père. Parce que,
oui, il y, y a eu une fin qui était plus compliquée.
Ouais, c'était compliqué, quoi. Il était ailleurs, Jean-Pierre, tu vois. Il s'approchait de la fin, quoi. Puis bon, le problème de Jean-Pierre, c'est que moi j'ai toujours beaucoup aimé les chansons qu'il chantait. Il n'avait pas de succès. Mmh. Il en souffrait beaucoup, mais parce que ce qu'il chantait était horrible. Tu vois, c'était pas drôle, c'était morbide complet. Mmh. Quand la chanson « Je te strangule » sur le champ, où t'avais les spectateurs, surtout les femmes, t'es glacé, quoi. Tu vois. Non, mais c'était terrible. C'était un naufrage. Très, très compliqué, mais quel personnage. Moi, je rêve que des gens s'emparent du répertoire de Suc. C'est un des plus beaux paroliers, tu vois. Tout le monde disait que c'était un mec. Bon, il a 33 ans, donc c'est symbolique. Donc il manquait pas au cheval. Puis donc il a glissé ce mot sur la porte de mon père. Monsieur Léon, je serai pas là ce soir, je rentre me reposer chez mes parents. Et donc tu qui habitais là, voilà. T'avais pas besoin de rond pour habiter dans des trucs comme ça. Hein. Ça valait rien, c'était un garage. Jean-Pierre habitait là, et donc il avait l'espace en bas, et puis il avait créé une espèce de petite mezzanine où il avait son plumard. Voilà. Et c'était sa dernière nuit, elle était là, quoi. Tu vois, je vivais dans le quartier.
Jean-Claude Carrière.
Le dernier truc qu'il avait écrit, c'est une chanson inachevée, et qui s'appelait Superflu. Je me rappelle des quatre premiers vers qu'il chantait comme ça, qu'il fredonnait. Enfin, c'est une chanson qu'il n'a jamais terminée. Et qui disait « Superflu aura sa statue. » Je ne suis pas sûr de l'air. Hein. « L'emplacement est déjà pris. Superflu aura sa statue sur la terre nue. » Vous voyez, le ton était déjà plus pessimiste, plus sarcastique à un sens que celui de Saint-Germain-des-Prés. C'était vraiment beaucoup plus près de nous aujourd'hui.
René Fallet.
Un jour de mai, Jean-Pierre Suc fait sa valise. Hé, où tu vas, Jean-Pierre?
Pars en voyage.
Longtemps?
Je sais pas, je vais à Montpellier, j'en ai marre de Paris.
T'as de la chance de partir.
Oui, j'ai de la chance.
Et tu reviens quand?
Bientôt.
On remet ça?
Si tu veux.
Et Jean-Pierre Sucre prend le train de Montpellier. Le train qui doit lui redonner le soleil. Mais qui est Jean-Pierre Sucre? Qui est ce garçon? Jean-Pierre Sucre était de nos amis. Il s'est donné la mort dans ce train de Montpellier. Il avait 33 ans. Lorsqu'il a pris la mort de Sucre, Georges Brassens dit simplement « Il est parti en vacances ». C'est un poème qui lui ressemblait beaucoup que Jean-Pierre Sucre a mis en musique. C'est ce poème de Tristan Corbière, mort lui à 30 ans, que Georges Brassens a choisi ce soir de chanter pour un ami.
Elle était riche de 20 ans, moi j'étais jeune de 20 francs. Et nous fîmes bourse commune, placée à fond, perdue dans une infidèle nuit de printemps. La lune a fait un trou dedans, rond comme un écu de 5 francs. Par où passa notre fortune, 20 ans 20 francs, et puis la lune, 20 ans 20 francs, et puis la lune. En monnaie, hélas, les 20 ans. En monnaie, hélas, les 20 francs. Toujours de trous en trous de lune. Et de bourse en bourse commune. C'est à peu près même fortune. Je la trouvais bien des 20 ans. Bien des printemps, bien des 20 francs. Bien des trous et bien de la lune. Après toujours, vierge et 20 ans, et colonel à la commune. Puis après la chasse aux passants, aux 20 sols et plus aux 20 francs. Puis après la fosse commune, nuit gratuite sans trou de lune, nuit gratuite sans trou de lune.
Vous savez bien de qui je veux parler, ne faites pas l'étonné, mais si vous savez bien, il venait là, il s'asseyait là-bas, à cette table-là, parfois jusqu'au matin. Il souriait quand on lui demandait à quoi donc il pensait, mais ne répondait rien. Souvent le soir, il passait sans nous voir, en portant sa guitare. Qu'il jouait bien. Vous savez bien de qui je veux parler, ne faites pas l'étonner, mais si vous savez bien, de grands yeux noirs qui cherchaient à vous croire, comme on cherche l'espoir au fond d'un verre de vin, un air de rire de ce qu'il pouvait dire, comme un enfant ou pire, un sale petit gamin. Un prince de lune dont la seule fortune était, je le présume, qu'il aimait aller loin. Vous savez bien de qui je veux parler, ne faites pas l'étonner, mais si vous savez bien, c'était la fête ou parfois la tempête, quand ce drôle de poète vous disait « tu vas bien ». C'est difficile pour vivre, disait-il. Il faut être imbécile ou quelqu'un de malin. Ce troubadour qui n'aimait pas le jour et riait de l'amour. S'est tué ce matin.
Voilà, c'est sur cette chanson de Luce Klein que s'achève la première partie de notre promenade autour du Cheval d'Or. Mercredi prochain, nous descendrons la rue Mouffetard vers la Contrescarpe et nous continuerons cette balade en chanson sur les pas de Gilles Tcherniak. D'ici là, vous pourrez retrouver toutes les références des chansons entendues ainsi que des archives de télévision utilisées sur le site de l'émission rienaaffaire.com à la page Actualité de l'émission. Cette semaine, dans Le Temps ne fait rien à l'affaire, vous avez pu entendre Jacques Brel, Anne Sylvestre, Bobby Lapointe, Petit Bobo, Suc et Serre, Roger Riffard, Yvan Dautin, Jacques Cerisier, Georges Brassens et Lux Klein. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Fred qui était aux manettes aujourd'hui. C'était Le Temps ne fait rien à l'affaire, l'émission de la chanson non crétinisante sur Marmite FM 88.4. Salut, c'était Jean-François. À mercredi prochain.